En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le colloque intitulé « Du nouveau sur l'origine de l'homme en Europe » s'est tenu le 2 octobre 2008 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris et a fait part des dernières découvertes sur l'homme grâce à des ossements trouvés à Totavel en France et à Atapuerca en Espagne. Écoutez la retransmission de ce colloque avec les professeurs Henri Delumlé et Eudald Carbonel-Iroura.
Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut de paléontologie humaine. C'est un vrai plaisir que de vous découvrir aussi nombreux ce soir. Et on a décidé de consacrer cette soirée à l'actualité de la recherche et de la recherche sur le terrain, qui peut paraître, on l'évoquait ce midi avec Madame Delumlé par exemple, qui peut paraître quelquefois un petit peu longue, c'est-à-dire qu'en fouillant au pinceau, évidemment, ça prend du temps. Donc ces grandes campagnes de fouilles, elles s'inscrivent dans la durée, mais elles sont aussi très dynamiques et elles donnent l'occasion de découvertes exceptionnelles et souvent inattendues. Et donc ce soir, eh bien, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Henri Delumlé, qui est directeur, comme vous savez, de la Fondation Institut de paléontologie humaine, qui depuis 40 ans fouille le site, entre autres, de la Cône de l'Arago à Totavel. Il fait des découvertes tous les étés, puisque c'est un site qui est ouvert 5 mois de l'année. Et donc a fait des découvertes ces derniers temps et l'été dernier assez importantes. Et puis son homologue en Espagne, le professeur Eudald Carbonel-Iroura, son homologue, et je tenais à le préciser, son ancien élève, parce que ça vous donne une idée des filiations qui existent dans le domaine de la préhistoire et qui sont évidemment très émouvantes. Et donc les élèves sont faits pour dépasser les maîtres, comme vous savez. Et de ce fait, les découvertes espagnoles nous ont apporté des vestiges humains encore plus anciens que n'avaient pu le faire les découvertes françaises. Donc je vous laisse découvrir tout cela avec le professeur Delumlé, je crois qu'il veut introduire un petit peu cette conférence. Et puis d'abord, Eudald Carbonel, puisqu'ils sont l'auteur de découvertes assez anciennes. Et enfin, une conférence du professeur Delumlé pour vous présenter les découvertes en France. Voilà.
D'abord, je vous remercie d'être venus très nombreux assister à cette conférence. Je pense qu'on ne peut pas accueillir beaucoup plus de monde. Et le but de cette conférence, c'était un peu de présenter des découvertes récentes, surtout des découvertes qui ont été faites au cours des derniers mois, dans les campagnes d'été, parce que dans les deux sites, le but de ces conférences, c'est de vous présenter des découvertes qui ont été faites très récemment, et en particulier au cours des chantiers de fouilles de l'été dernier, car mon collègue Eudald Carbonel-Iroura fouille dans le site, célèbre site de Atapuerca chaque année pendant cette année 2 mois, et nous fouillons dans le site de la Cône de l'Arago à Totavel pendant 5 mois. Eudald Carbonel a fouillé le site, les sites d'Atapuerca, car il y a plusieurs sites, il vous en parlera, pendant le mois de juin et le mois de juillet. Et nous avons travaillé dans la Cône de l'Arago à Totavel pendant 5 mois, du 1er avril au 31 août. Et des sites, ce sont deux sites extraordinaires. Le site d'Atapuerca est un des sites majeurs pour comprendre l'histoire de l'humanité, car comme va vous le dire tout à l'heure de la Carbonel, il y a des sites d'âge très différents qui permettent de suivre toute l'histoire de l'évolution humaine depuis l'arrivée de l'homme en Europe. C'est ainsi que, pour présenter cette extraordinaire aventure culturelle des hommes en préhistoire, Eudald Carbonel réalise aujourd'hui un grand centre, un grand complexe de préhistoire, avec un laboratoire de recherche sur la préhistoire qui aura 6 500 m², un musée sur l'évolution humaine qui aura 15 500 m², un palais des congrès avec un amphithéâtre de 1400 places, voyez, car le gouvernement espagnol a pris conscience, et la province de Castille-Léon a pris conscience de l'importance extraordinaire de l'histoire de l'homme, de l'importance de ses découvertes, de son patrimoine, et comprendre l'aventure de l'homme, comprendre l'histoire de l'homme, savoir quelle est la place de l'homme dans l'histoire de l'univers, quelle est la place de l'homme dans l'histoire de la vie, nous permet de mieux nous comprendre et mieux comprendre quel sera notre avenir. Et puis, moi, je vous présenterai l'histoire de ce fabuleux gisement de la Cône de l'Arago à Totavel, où on peut suivre l'évolution culturelle des hommes de la préhistoire entre 700 000 et 100 000 ans. Mais je vous présenterai surtout, aujourd'hui, les découvertes de restes d'hominidés fossiles que nous avons fait dans la Côte d'Arago, et les découvertes que nous avons effectuées au cours de l'été dernier, en particulier une nouvelle mandibule humaine. C'est la quatrième mandibule humaine trouvée dans la Côte d'Arago. Un oscilliaque, c'est le deuxième oscilliaque trouvé dans la Côte d'Arago, sans compter une symphyse pubienne. Et enfin, un fragment de tibia. Et je cède tout de suite la parole à Odel Carbonel.
Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici dans le cadre du 100e anniversaire de l'IPH. Je suis très heureux, je vois dans la salle mes collègues. Je suis venu, ça fait plus que 30 années, à faire mon doctorat dans cette maison. Et pour moi, cette maison, c'est très particulière. Et je l'ai dans ma tête et dans mon cœur. Et je remercie aussi à mon professeur, à mon ami, à mon collège, Henri de Lumley, pour avoir invité à faire cette conférence. Je vous propose de faire une petite promenade pour les découvertes des hominides qui ont arrivé à l'Europe et à l'Europe occidentale. Ça fait un milieu 3, un milieu 4. Donc, cette conférence va être une synthèse de différentes découvertes qu'on a faites à Taperka. On a commencé le travail dans les années 78. On a continué, donc pendant 30 années, on a fouillé chaque été, on a publié les découvertes de fossiles de le complexe karstique d'Ataporca. Mais la fouille, c'est une constatation empirique de demande que les scientifiques nous faisons pour connaître qu'est-ce qui se passe avec l'évolution humaine. Donc nous travaillons sur l'évolution humaine d'Ataporca. De l'Europe, on va commencer pour les demandes. Il y a des questions à résoudre sur les peuplements européens. Nous avons décidé de nous plonger sur 5-6 questions fondamentales. Et on a essayé de tester ces questions dans le site d'Ataporca. La première question, c'est quelle est l'antiquité du premier peuplement, si c'était archaïque ou récent. Le professeur de Lumley, quand j'étudie ici, il a déjà émis l'hypothèse, il y avait des sites anciens en Europe, si je parle des années dernières, 70 et 80. Donc il y avait des hypothèses des chercheurs européens, surtout du centre du Nord, qui disaient que le peuplement de l'Europe, c'est un peuplement récent ou moderne. Ça m'intéressait beaucoup quand j'étais étudiant et j'ai commencé à travailler sur l'hypothèse qu'à l'Europe, il y avait pour confirmer un peuplement très ancien. La seconde question est comment ils sont arrivés de l'Afrique à l'Europe, par où? Le troisième, quel type de technologie utilisaient les hominides qui sont partis de l'Afrique pour arriver à l'Europe? Et quelles caractéristiques avait cette première habitant qui s'installe à l'Europe quand il n'y avait pas de population? Et une autre question importante pour la consistance et pour la séquence, c'est comment évolue cette population dans le subcontinent européen? Ça, c'est deux questions. Et je peux dire qu'Ataporca a donné beaucoup d'informations pour tester, pour discuter, pour réfléchir, pour tout cet ensemble de propositions scientifiques. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est important de fouiller les sites. Prochaine. Vous connaissez le site d'Ataporca? Se trouve situé dans le nord de la péninsule ibérique, à 250 km de Madrid. Et c'est un ensemble karstique sur une structure géologique crétacique. Et on voit les trois sites dont on va parler après. Les sites plus anciens de Cima de l'Elefante, à la trinchera del ferrocarril, le même complexe que le site Cueva de la Grande Dolina et le site de Cima de los Huesos, le plus moderne, qui se trouve dans l'ensemble Cueva Mayor, Cueva del Cielo. On va parler de la découverte qu'on a faite dans les trois sites. Et on va commencer pour la découverte plus récente. La découverte plus récente, c'est un mandibule d'hominides qui a été publié récemment dans la revue Nature, et on la voit soutenue pour la main. Cette mandibule, tu peux passer, est caractérisée surtout pour son ancienneté. Ça a été daté d'un million d'eux. C'est le fossile humain plus ancien daté de l'Europe occidentale. Le caractère de ces mandibules, c'est très spécial. Il n'a pas de menton. Les dents, ils sont très usées. C'est peu robuste. La face interne, il n'y a pas de torus. Tout ça fait qu'on l'a comparé avec des mandibules de les sites du Caucase, de Demanissi, 1,7, 1,8. Il y en a vu qui a des caractères qui, en principe, similaires à les caractères de cette mandibule qui a été trouvée à la péninsule ibérique. Donc, à notre avis, il y a une relation entre les hominides de Demanissi et Homo antecessor. La découverte est très importante parce que ce n'était pas un reste humain isolé. On a trouvé déjà des restes postcraniens cette année, concrètement en phalange, et était associé à l'industrie taillée sur silex, sur blocs de silex, néogène et crétacique, hein, pas abondant, mais existant surtout des petits formats, des éclats avec des biseaux et des dièdres, mais toujours des petits formats. Aussi, il se trouve associé à des ossements des mammifères, des herbivores, qui ont des coupes, des marques faites, marques de coupage, faites pour des instruments que vous avez vu avant. Et aussi, il y a des métaphyses avec des grands coups faits avec des galets, dont ça indique l'intervention humaine sur les mammifères pour profiter de la biomasse de ces animaux. Ça, c'est le site dans la trinchera de ferrocarril. La trinchera de ferrocarril, c'est un aménagement qui a été fait, ça fait plus de 100 années, pour faire passer un train qui portait du fer du nord de Burgos jusqu'à Villafria, et cet minéraux partait pour travailler à l'Angleterre. Juste qu'ils ont fait le coupage de l'intérieur, il vient d'apparaître ces dépôts qui font 22 mètres de coupe. Ces dépôts y a été décomposé à 21 niveaux, et dans le niveau 9, c'est le niveau qu'on a fait la découverte de ces fossiles de Homo antecessor anciens d'un million d'années à 1,3 million. Cette fossile, vous voyez la coupe stratigraphique, il se trouve dans le niveau 9, daté pour nucléotide cosmogénique de 1,2 million. Les dernières données, ils donnent 1,3 million, 1,000,000, c'est un peu plus ancien de ce qu'on en pensait. Vous voyez là-haut, dans le niveau 17, nous avons les changements magnétiques, hein, les changements de passe Matoyama-Brunes, donc toute la séquence de ce site, c'est une séquence de Pléistocène inférieur. On espère trouver encore plus de restes, de restes anciens dans les sites de l'éléphant. On foule que 25 mètres carrés, et le site peut-être peut avoir 200, 300, 400 mètres carrés encore pour fouiller en extension. Donc on espère trouver beaucoup plus de restes de cette hominide de 1,3 million. Donc la demande dans la trinchera de ferrocarril qu'on s'est faisait, on connaît donc, on a déjà dans l'Europe des hominides, pas de l'industrie, non, des hominides, 1,3 million. Donc, c'est clair que la proposition ancienne, qui a fait déjà Henri et des autres préhistoriens, qui existe un peuplement ancien à l'Europe, s'est testée. Il n'y a pas un peuplement, il y a un peuplement au Pléistocène inférieur. est relié sûrement à un peuplement qui vient pour le Caucase. Deuxième question. Les hominides ne passent pas pour Gibraltar. Ces premières hominides viennent pour le Caucase. Bien, on l'a dit, mais il faut trouver les preuves de ça marche comme ça. Cet hominide, vous avez vu l'industrie, c'est une industrie de mode 1. Ça veut dire qu'on ne sait pas, il ne taillait pas des grands instruments. Il faisait que des petits éclats. Donc, on voit qu'à l'Europe, on ne trouve pas des hachéros, des bifaces avant 850-700 000 années. L'autre site, à continuation, c'est le site de la Grande Dolina. Vous le voyez, le site de Grande Dolina. On fouille ce site, ça fait 25 années. Un autre. On a trouvé, ça fait déjà 13 années, l'espèce Homo antecessor. Vous voyez, le site a été daté pour des collègues d'ici, pour ECR, mais aussi il a été daté pour le paléomagnétisme. Et dans l'INEVO 6, on a trouvé 120 restes humains d'une nouvelle espèce, Homo antecessor. Les caractéristiques d'Homo antecessor, si on la voit, la datation est précise, 800 000 années. Nous avons fait des dernières datations pour thermoluminescence, et ça paraît que c'est un peu plus ancien, ça donne 900 000 années. Le frontal, c'est un frontal fouillant, à la partie supérieure, vous le voyez, primitif. La capacité crânial, c'est de 1000 cm cubiques. C'est bien robuste, ça c'est très intéressant. D'un primitif, mais avec quelques caractères néandertaliens. Des faces de fosses canines très marquées, comme nous, comme maxillaire des hominides modernes. Et il est associé aussi à l'industrie de mode 1, sans biface, sans hachéron. C'est en confirmation que pendant 1 million 800, nous ne trouvons pas à l'Europe dans des séquences des matériaux correspondant à mode de HLN. Prochaine. L'industrie, vous la voyez, c'est une industrie qui est plus évoluée déjà, c'est une industrie qui est débitée en façon orthogonale, qui sont comme des cubes, et il obtient des petits éclats aussi, des éclats qui ont toujours un biseau latéral. Et aussi, il y a des galets qui sont aménagés sur en face. Caractéristique, à notre point de vue, d'une évolution de cette mode 1 ou Old Wild. Prochaine. Cet hominide, c'est intéressant parce que le 60%, les 60% de restes squelettiques, les 60%, il y a marque de coupe. Il y a des coupages dans les 60% de le reste humain qui ont été trouvés à TD6. Donc, c'est la preuve de cannibalisme plus ancien connue à l'histoire de l'évolution. 60%. Ils sont complètement découpés. Il y a une technique qui découpe le sternocleidomastoïdeo, qui découpe l'extrémité supérieure, les extrémités inférieures. Il y a une caractéristique encore extraordinaire, c'est que c'est presque tout infantiles, qu'ils ont mangé des populations infantiles de 3 à 11, 12 années. Il n'y a pas d'inconsommation des adultes dans ces sites-là. Ça a émis la hypothèse donc peut-être c'est un problème de compétence dans la même moyenne pour la même espèce, mais pour différents groupes. Donc, pour éviter la croissance démographique et la compétence dans les territoires, peut-être la pyramide trophique a été coupée pour en bas. Prochaine. Comment on peut relier les homo antécesseurs d'ici, homo antécesseurs de la foule de cima de l'éléphante? On voit que les mandibules d'un site et d'un autre, il y a certainement des caractéristiques semblables. Par contre, nous avons émis l'hypothèse que les restes humains trouvés à cima de l'éléphante et les restes humains trouvés à Grande Dolina appartiennent à la même espèce, au Monte Teso. Ce que c'est important, c'est que la mandibule à 1,3 million de Cueva de la Cima de l'Elefante, il y a des traits morphologiques semblables à des manicies, à Homo georgicus. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il ne présente pas les caractères dérivés des pré-néandertaliens et des néandertaliens. Continue. Bon, nous avons mis à point un arbre phylogénétique. Ça, c'est nos propositions initiales. Ça fait déjà 13 années que le caractère homo antécessor peut être un caractère nodal qui donne la bifurcation à l'Afrique de Homo sapiens, notre espèce, et à l'Europe de Homo neanderthalensis. Mais maintenant, nous pensons que Homo antécessor, c'est une branche qui a été coupée, qui n'a pas évolué. Donc, il faudra changer, on va discuter, mais on va publier de nouvelles hypothèses sur cette découverte. Donc, on voit une chose déjà. Pour les problèmes de continuité des populations à l'Europe, on a déjà des nouvelles hypothèses. C'est possible qu'Homo antécessor, il ne donne pas Homo heidelbergensis. Donc, d'où vient Homo heidelbergensis? Bon, nous avons la chance que nous avons 6500 restes d'Homo heidelbergensis dans la grotte de la Cima de los Huesos, dans la grotte de Cueva Mayor, Cueva del Silo. Encima, c'est un puits de 14 mètres qui se trouve à un demi-kilomètre de l'entrée et juste au bout de cet puits, on trouve l'accumulation de 29 individus de restes squelettiques qui appartiennent à 29 individus. Des crânes, des mandibules, l'exceptionnelle accumulation de fossiles qu'on trouve dans le fond de ces grottes. La stratigraphie, ça a été daté. La Terre replie continuellement. Ça a été daté pour uranium-thorium, SR, on a fait thermoluminescence, etc. Il y a un spéléothème et un stalagmite qui recouvre le dépôt. Il y a différents spéléothèmes. Et la dernière datation qu'on a fait, ça paraît qu'il y a plus de 500 000 années l'accumulation de fossiles d'Homo heidelbergensis au fond de ces grottes. Normalement, cette puits s'était connecté à l'extérieur. Maintenant, pour arriver à ce puits, il faut se promener un demi-kilomètre pour l'intérieur de la grotte. Ce que c'est intéressant pour ce dépôt, c'est que c'est une accumulation apparemment anthropique et catastrophique. Si vous voyez l'âge de mort des individus, vous voyez qu'il n'y a pas d'enfants, presque, souvent neuf, qu'il n'y a pas d'adultes, presque, et qu'on trouve que la majorité de ces individus, ils sont morts, ils sont déposés dans la grotte, entre 11 et 20 années. Ça paraît une chose très suggestive, ça paraît une chose extraordinaire, donc ça paraît une chose qui dérivait d'une chose que ce n'est pas normal pour la population de ce moment-là. Prochaine. L'hypothèse qu'on a mis, parce que dans ces dépôts, on ne trouve pas une accumulation d'herbivores, on a trouvé qu'associé un biface taillé sur le calcite, c'est que cette accumulation, c'est une accumulation faite pour les humains. Donc, à notre avis, peut-être la première accumulation intentionnelle ou les premières, disons, entre guillemets, sémentières en l'évolution, un demi-million d'années. C'est curieux, ça c'est l'unique pièce qu'on a trouvée à l'intérieur de ce puits, c'est un biface de quartzite rouge, et jamais on a trouvé ces matériaux taillés dans des autres gisements de la même âge à Taporka. Donc ça paraît qu'il a été bien choisi. Il a été étudié au microscope électronique, on n'a pas trouvé de traces d'utilisation pour cet instrument. Continuons. On a pensé que cette accumulation des cadavres, ça fait 500 000 années, il a été, c'est l'hypothèse, apparemment associée à un instrument votif. Peut-être la première association culturelle sociale de cadavres pour des hominides dans leur évolution humaine. Vous voyez les sites où ça s'est placé et le reste aux côtés. La caractéristique de cet hominide, de Homo heidelbergensis, c'est qu'il y a une combinaison en mosaïque des caractères primitifs et dérivés des néandertaliens. Sans doute, c'est le père des néandertaliens, ce qu'on a trouvé dans ces grottes. Il y a une grande variabilité dans la combinaison de ces caractéristiques, en présence de caractéristiques dérivées des néandertaliens et en différents degrés dans les individus. Ça indique donc qu'on a ces hominides, Homo heidelbergensis, sont encore une espèce ou une espèce qui va dériver plus tard pour l'évolution à les néandertaliens. Bon, et pour finir, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez vu, on a fait 5-6 demandes sur des questions que quand j'étais jeune et j'étudiais, j'essayais de résoudre. On n'a pas résolu tout parce que la science, toujours qu'il y a une solution, on trouve un autre problème. Mais bien sûr que pendant ces 20-25 années, notre équipe s'est plongée pour travailler sur la fouille pour trouver ces caractéristiques. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il y a une chose importante, il faut travailler encore pour trouver d'au moins des antécesseurs à l'Afrique, mais à mon avis, ça va être difficile parce qu'on commence à penser que mon antécesseur s'est déjà dérivé à l'Eurasie. Continuer la recherche de la Sierra de Atapuerca et des autres sites européens pour trouver des matériaux en millions d'années, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui ont ces matériaux. Et tenter de découvrir plus de restes humains pour mieux connaître l'anatomie des premiers européens. C'est dans la redondance que les scientifiques nous avons des données pour travailler. Et ce que c'est important, à mon avis, réexaminer des structures, des restes des fossiles, son anatomie pour pouvoir mieux caractériser ces sortes d'hominides. Donc, à partir de cette année, je me fais responsable de me faire de nouvelles demandes et tant que je peux revenir à l'IPH en 5, 6, 10 années à ma maison, je vais essayer pour la fouille de vous proposer des solutions empiriques à ces demandes. Merci. Je donne la parole au professeur Henri Delombeuil.
Bien, je vais vous présenter un autre site qui n'est pas très loin d'Atapuerca, mais enfin quand même qui est à 5 heures de route. Pour aller de Totavel à Atapuerca, il y a 5 heures de route en passant par Saragosse. Mais c'est aussi un site majeur dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des premiers Européens. Mais le site de la Cône de l'Aragua à Totavel est un site qui a moins d'histoire que l'ensemble des grottes d'Atapuerca. Dal Carbonel vous a expliqué qu'à Atapuerca, il peut, grâce à plusieurs sites, il peut suivre l'évolution humaine depuis l'arrivée de l'homme en Europe, ou au moins depuis 1 200 000 ans, ou 1 300 000 ans, jusqu'aux périodes les plus récentes, car il y a beaucoup de sites, et c'est un site absolument, l'ensemble des sites d'Atapuerca constitue un ensemble absolument extraordinaire. Mais je pense que l'Arago, la Cône de l'Arago à Totavel, voici, est un site aussi extraordinaire, un site extraordinaire qui contient un remplissage extrêmement important, qui a 15 mètres d'épaisseur et dont les couches s'étalent dans le temps de 700 000 à 100 000 ans. C'est-à-dire, dans la Cône de l'Arago à Totavel, on peut suivre 600 000 ans d'histoire de l'humanité entre 700 000 et 100 000 ans, de suivre l'évolution des climats, l'évolution des faunes, l'évolution des flores, l'évolution des climats, l'évolution des paléo-environnements, l'histoire de la biodiversité, mais aussi suivre l'évolution morphologique, culturelle de l'homme, l'histoire de ses comportements et de son mode de vie. Nous sommes ici dans la plaine de Totavel, qui est située à 30 km à peu près au nord-ouest de Perpignan. Si un jour vous voulez venir à Totavel, vous prenez l'autoroute qui va de Narbonne à Barcelone. Et quand vous voyez sur la route un panneau Totavel, moins 450 000 ans, prochaine sortie, bien vous sortez, et à quelques kilomètres à peine, vous avez Totavel, sa grotte, son musée, et dans son musée, vous pouvez trouver, revoir les premiers habitants de l'Europe, presque en chair et en os. Alors je vous invite à venir à Totavel. Totavel est situé à 50 km environ au nord du massif du Canigou. Et la grotte, voyez, s'ouvre sur une corniche escarpée à environ 80 mètres au-dessus du niveau de la rivière actuelle. Une grotte perchée sur une corniche escarpée à 80 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Et les hommes avaient choisi cette grotte pour beaucoup de raisons. Elle est bien située. Elle est située sur une corniche escarpée, donc elle est bien protégée, orientée au soleil levant. Le matin, le soleil pénètre dans la caverne là où vivaient les hommes. Et quand on n'avait pas domestiqué le feu, c'était bien agréable d'avoir un peu de soleil le matin en se levant. D'autre part, elle est située au carrefour de plusieurs niches écologiques. Vous voyez, elle s'ouvre dans les falaises, dans l'habitat naturel des animaux de rocher. Et les hommes pouvaient, aux portes de la grotte, chasser le mouflon ou le thar, qui est une chèvre long poil qui vit dans l'Himalaya, parfois le chamois, et dans les périodes les plus récentes, le bouquetin, car à partir de 300 000 ans, le mouflon disparaît, c'est le bouquetin qui le remplace. C'est toute l'histoire de la biodiversité que dans les régions du littoral méditerranéen que l'on peut suivre à Totavel. Mais les hommes aussi pouvaient facilement accéder au plateau au-dessus de la grotte, qui était un vaste territoire de chasse, et puis aussi dans la plaine de Totavel, au pied de la grotte, où lorsqu'il le climat était occupé par une steppe à graminées et arborée, balayés par la tramontane, ils pouvaient traquer les troupeaux de grands herbivores comme les chevaux, les bisons, les rhinocéros, les éléphants. Et puis, quand le climat était humide, tempéré, qu'il y avait la forêt qui couvrait le paysage, ils ne voyaient rien de la grotte, ils voyaient simplement la canopée, mais ils pouvaient dans la forêt chasser les animaux de forêt tels que le cerf et le daim. Mais aussi, la Condrago est située sur une rivière qui est pérenne, c'est-à-dire qui coule toute l'année, car l'eau s'écoule sur des marnes imperméable, et il y a toujours eu de l'eau, et même aujourd'hui, pendant les périodes les plus desséchées, les étés les plus secs, alors que tous les fleuves du Roussillon, comme la Tête, la Gly, sont asséchés, eh bien, il y a toujours de l'eau dans le Verdouble, cette rivière qui est au pied de la Condrago, et les hommes pouvaient non seulement trouver de l'eau au pied de la grotte, mais aussi chasser les animaux qui venaient boire. Alors voici cette grotte, c'est une grande galerie, qui a actuellement, on peut l'explorer sur 30 mètres de longueur. Mais nous savons, grâce à des prospections géophysiques qui ont été faites, qu'elle se continue d'au moins 60 mètres. Et nous savons que le porche actuel, voyez, que vous voyez ici, est en partie effondré, et qu'à l'origine, la grotte s'ouvrait 30 mètres en avant. C'est-à-dire c'est une grotte, une galerie d'au moins 120 mètres. Nous avons commencé la première campagne, j'ai visité pour la première fois la Condrago en 1963, en avril 1963. Nous avons ouvert un chantier de fouilles en avril 1964. Et depuis donc plus de 40 ans, nous fouillons chaque année cette caverne. D'abord, on fouille un mois par an, puis deux mois par an, puis trois mois par an. Et depuis une dizaine d'années, on fouille sept mois par an, du 1er avril au 31 août. Alors, on a installé un carouillage dans la grotte, permet de partager la grotte en carré de mètres côté. Et tous les objets que nous trouvons sont coordonnés avec les trois coordonnées de l'espace. Nous avons coordonné et porté sur plan aujourd'hui plus de 600 000 objets qui sont enregistrés sur des carnets de fouilles, dessinés à l'échelle 1/5 sur des plans et qui sont repérés avec les trois coordonnées de l'espace. Et toutes ces données sont aujourd'hui transcrites sur ordinateur avec les attributs de chacun des objets, ce qui constitue une gigantesque base de données à la disposition des archéologues. Et alors, on peut dire que cette grotte est un livre d'histoire qui raconte 600 000 ans d'histoire de l'humanité. Et ce livre n'est pas écrit avec des lettres. Mais la grotte a conservé dans sa mémoire tout ce qui s'y est passé, tous les événements qui se sont succédés dans la caverne. Et le préhistorien est un chercheur, un peu un détective, c'est le détective du passé, qui, en faisant appel à des techniques, d'abord à des recherches sur le terrain très, très précises, avec, qui sont conduites avec beaucoup de soin, puisque tous les objets sont coordonnés, mais aussi en faisant appel à des recherches en laboratoire, en faisant appel aux technologies les plus modernes, arrive à reconstituer l'histoire de l'environnement, l'histoire des paysages, l'histoire de la biodiversité, les contextes écologiques dans lesquels vivaient ces hommes, mais aussi l'évolution de l'homme lui-même, de son comportement, de son mode de vie. On peut dire que c'est un disque dur, que le remplissage d'une caverne est un disque dur qu'il faut savoir interroger, et c'est ce que nous essayons de faire, comme le fait notre collègue Édouard Carbonel dans les grottes d'Atapuerca. Et on arrive à des conclusions extraordinaires pour reconstituer le comportement et le mode de vie des hommes préhistoriques. Alors voici des vues, des coupes. Au fur et à mesure que nous fouillons, nous dégageons des coupes pour essayer de comprendre l'histoire du remplissage. Je vous ai dit que le remplissage de la Côte d'Aragua a 15 mètres d'épaisseur. Du coup, vous avez ici un sol très riche que nous appelons le sol G. Vous verrez que c'est dans ce sol d'occupation que nous avons trouvé le plus grand nombre d'ossements d'hominidés. Ce sol d'occupation date de 450 000 ans. Il a été daté par la méthode de l'uranium-thorium, mais aussi confirmé par d'autres méthodes de datation qui sont intercalibrées, comme la datation par la résonance électronique de spin. Ce sol d'occupation qui date d'environ 400 000 ans correspond à un campement de chasseurs de grands herbivores qui a occupé la grotte pendant plusieurs années, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'est pas encore sûr, peut-être 2, 3 ans, c'est à peu près très vraisemblable. Ici, au-dessus, vous avez un campement de chasseurs de mouflons qui correspond à un campement saisonnier temporaire qui va du mois de mars au mois de juin, de quelques mois. Et puis, il y a d'autres sols d'occupation sur toute la hauteur, jusqu'à 100 000 ans, et en descendant jusqu'à 600 000 ans. Alors, nous avons mis en évidence dans le Côte d'Aragua plusieurs types d'occupations. Nous avons d'abord des occupations de longue durée. C'est des occupations qui ont duré plusieurs années. Et les chasseurs préhistoriques ont chassé, occupé, se ravitaillé, si vous voulez, dans plusieurs biotopes. Et dans le sol G, ils chassaient les animaux de rocher, tels que le mouflon, le tar, sur les corniches escarpures de la grotte. Ils chassaient dans la plaine de Totavel les chevaux, les bisons, les rhinocéros, les éléphants. Ils pouvaient aussi, au bord de la rivière, chasser des animaux qui venaient boire. Et ils y sont restés plusieurs années. Et on peut dire que toute la famille vivait là, puisque dans ces sols d'occupation, on trouve des dents de lait, des dents déciduales, des dents de lait d'enfants tombées naturellement, qui n'ont plus du tout de racines, dont la racine est résorbée. Et ces dents de lait qui sont tombées alors que les enfants n'étaient pas encore morts. S'il y avait des enfants, ils devaient avoir leur maman. Et il y avait toute la famille qui vivait dans la grotte. Par contre, on trouve aussi des niveaux comme le sol, ici c'est le sol F, qui date de 440 000 ans, qui est un campement de chasseurs saisonniers. Et je vous l'ai dit, qui va du peu près du mois d'avril, disons, au mois de juin, 3 mois. Et les hommes avaient une chasse sélective, ils chassaient surtout le mouflon pendant, et un peu le tar, qui vit aussi dans le même contexte écologique. Ils chassaient donc des animaux de rocher. Mais ils y sont restés aussi quelques mois, et aussi toute la famille qui vivait, parce que dans ces sols d'occupation, on peut trouver aussi des dents de lait d'enfants tombées naturellement. Et puis, il y a des sols qui correspondent à des haltes de chasse de brève durée. Nous avons trouvé, par exemple, une halte de chasse de 550 000 ans, qui correspond à une halte de chasse de quelques semaines, peut-être 15 jours, un mois, car par exemple, il y a des rennes qui ont juste un an. Ou juste 2 ans. Il n'y a pas des rennes de 6 mois, il n'y a pas des rennes de 18 mois, il y a des rennes de 12 mois ou de 24 mois. C'est-à-dire des rennes qui ont été abattues vers le mois de mai, car c'est le moment où les rennes naissent. Alors, c'est des rennes d'un an, de juste de 2 ans. Et c'est des haltes de chasse très courtes. Et là, il n'y avait sans doute que les chasseurs. Il n'y avait pas ni les femmes ni les enfants, parce que dans ces niveaux-là, on ne trouve pas de dents de lait d'enfants tombées naturellement. Parfois, c'était de simples bivouacs. On connaît un niveau, justement, entre le sol F et le sol G, qui est à peu près ici, d'ailleurs, vous voyez quelques objets, qui est très pauvre, quelques ossements de bœuf musqué, quelques éclats qui ont été rapportés par les hommes, et c'est un simple bivouac. Et puis, quand les chasseurs n'étaient pas là, c'était des grands carnivores, comme l'ours, qui venaient habiter la grotte. Et on a trouvé des squelettes complets d'ours, d'ancêtres de l'ours des cavernes, de l'ours de Néningère, avec la colonne vertébrale en connexion anatomique, le crâne, la mandibule, qui montrent que la grotte n'était pas habitée, que les ours venaient hiberner. Mais parfois, ce n'était pas des ours qui venaient habiter la grotte, c'était d'autres grands carnivores, comme par exemple le lion, la panthère, le cuon, très souvent, qui habitait la grotte lorsque l'homme n'était pas présent. Alors, vous voyez, c'est ce disque dur, ce livre que nous devons interroger, que nous devons faire parler pour reconstituer le comportement, le mode de vie, l'histoire de des paléo-environnements des hommes préhistoriques. Vous voyez ici, on est en train de dégager le sol G. Vous voyez qu'il est très épais. D'ailleurs, dans cette salle, il y a une des collaboratrices, Florence Tosca, qui est une experte pour démonter le sol G, qui est extrêmement riche. Et c'est très difficile car les os sont très fragiles. Ils sont enchevêtrés les uns dans les autres. Et on a beaucoup de mal à le disséquer. Alors, par-ci des sols, on essaye de dégager quand on peut les sols sur des grandes surfaces. Et là, vous voyez la sursurface de sols d'occupation qui date de 550 000 ans. C'est cette halte de chasse dont je vous parlais tout à l'heure, de chasseurs de rennes, qui a occupé la grotte une quinzaine de jours, à peu près, au mois de juillet, il y a 550 000 ans. Alors, on est assez précis sur le moment de l'année, mais 550 000 ans, plus ou moins 10 000 ans, si vous voulez. Et c'était des chasseurs de rennes, et vous voyez qu'il y a énormément, il y a 95% sur sol d'occupation, 95% d'ossements de rennes, qui sont d'ailleurs souvent brisés, fracturés, mais pas toujours. Et d'autre part, ils sont souvent restés en connexion anatomique, comme ces morceaux de colonne vertébrale, vous voyez, ces vertèbres emboîtées encore les unes dans les autres, qui nous permettent de voir quelles étaient les activités, les techniques, les modes de dépeçage, d'abord, en étudiant les stries sur les ossements, mais aussi les techniques de mise en quartier, les techniques de boucherie des hommes préhistoriques, il y a 550 000 ans. Dans cette terre, nous avons analysé cette terre a été analysée par Mme Mikoski, là, qui est d'ailleurs présente ici, et il y a très peu de pollen d'arbres, il y a surtout des pollens de bercées, c'est un paysage de steppe à graminées à composer. Les sédiments de ce niveau-là sont des sables qui ont été apportés par le vent dans la caverne. Il y avait une steppe désolée, à graminées à composer, balayée par une paléotramontane qui devait souffler à plus de 120 km/h. Nous l'avons calculé parce qu'il y a des petits grains de schiste et on peut calculer, qui ont un certain poids, et on peut calculer le poids, la force du vent pour pouvoir transporter ces grains jusque dans la caverne. Prochaine. Ici, je vous présente un autre sol. C'est un sol qui est un peu plus récent, qui date de 500 000 ans. Alors, le climat est complètement différent. L'étude des sédiments montre que ce sont des argiles qui ont été charriées depuis le plateau, car le contexte le minéralogique, pétrographique de ces argiles évoque les argiles du plateau. C'est donc une période humide pendant laquelle le ruissellement transporte les argiles dans la caverne. L'étude des pollens montre qu'il y a beaucoup de pollens d'arbres. Plus de 75% de pollen d'arbres, une chaînée mixte, et dans cette forêt vivent des animaux de forêt, c'est le cerf et le daim. Le renne a disparu, les chevaux ont disparu, et c'est des animaux de forêt tels que le cerf et le daim. Et puis après le départ des hommes, je vous l'ai dit, quand les hommes n'étaient pas là, c'est les carnivores qui viennent habiter la grotte, et là vous voyez, sur ce sol d'occupation H1 qui date de 500 000 ans, après le départ des hommes, c'est un campement d'automne qui a dû durer du mois de septembre au mois de novembre, les hommes sont partis et c'est un ours qui est venu habiter la caverne. Vous voyez son crâne, sa mandibule et les os de l'ours sont complètement entiers. C'est un campement saisonnier temporaire dans lequel a été trouvé aussi des dents de lait d'enfant et il y avait toute la famille qui vivait alors dans la caverne prochaine. Mais alors, quand l'homme n'était pas là, bien c'était de l'ours et là vous voyez un crâne d'ours aussi sur un sol d'occupation. Au-dessus d'un sol d'occupation. Parfois, c'est aussi le bouquetin, quand la grotte n'était pas habitée par l'homme, qu'elle n'était pas habitée aussi par des grands carnivores. Les animaux de rocher qui vivaient sur ces corniches escarpées pouvaient venir dans la grotte. Et ça, c'est un crâne de bouquetin qui n'a sans doute pas été chassé, car il n'est pas cassé. Quand les hommes abattaient un animal, ils récupéraient tout, y compris le cerveau, et ils cassaient les crânes. Quand on a un crâne entier comme ça, c'est vraisemblablement un crâne d'un animal qui est mort naturellement dans la caverne où il s'était réfugié. Alors, cette culture, les hommes qui habitaient la grotte, correspondent de haut en bas, d'ailleurs, du remplissage, à ce qu'on appelle la culture acholienne, qui est caractérisée par des bifaces. Et là, je vous présente un biface exceptionnel qui est taillé en cornéenne, c'est-à-dire c'est un schiste un peu métamorphisé, qui a été très altéré. Et vous voyez, au moment où on les trouve, vous voyez, ça, c'est ça, au moment de sa découverte, on arrive mal à distinguer la terre du sédiment. Il faut le prendre en bloc, le laisser sécher pendant presque un an, et après, on le dégage très doucement avec des outils de dentiste, avec beaucoup de précautions, et on arrive, vous voyez, avec ce magnifique biface. Alors, vous voyez, c'est un biface qui est d'assez grande taille, il doit avoir 40 cm de long, vous voyez, c'est une pièce exceptionnelle. Et on peut dire que les hommes, quand taillent un biface comme ça, l'ont soigné, ils se sont appliqués. Alors, tout à l'heure, Dal Carbonel vous a dit que dans les civilisations très anciennes, avant 600 000 ans, les hommes ne faisaient pas de biface. Ils travaillaient, ils faisaient des petits éclats, car c'était, plus que des chasseurs, c'était des charognards. Ils avaient besoin de petits éclats pour accrocher la viande sur les ossements, ou de gros galets des chopeurs, pour casser les os, pour désarticuler les carcasses de grands herbivores, et pour extraire la moelle dont ils avaient besoin, car ils avaient besoin de lipides. Eh bien, à Totavel, à partir de 600 000 ans, ils ont inventé la chasse, ils sont devenus de grands chasseurs, et on peut mettre en évidence que à Condoragua Totavel, les hommes étaient des chasseurs. Et quand on a battu un animal, il faut l'ouvrir, et le biface, c'est l'outil idéal, qui a deux tranchants latéraux très coupants, est un outil idéal pour découper le poitrail d'un grand herbivore. Si un jour vous avez à découper le poitrail d'un cheval ou d'un bison, essayez de faire tailler un biface, vous verrez, ça marche assez bien. Ce n'est pas toujours très facile quand même. Mais là, il y a quand même plus. Vous voyez que ce biface a été soigné. Il présente une magnifique symétrie bilatérale, bifaciale. Il est bien, sa base est bien arrondie, bien soignée, sa pointe est bien soignée. Et manifestement, il y a un sens, une recherche d'une certaine harmonie, d'une certaine beauté. Tout à l'heure, Dal Carbonel vous a présenté une autre pièce, un biface en quartzite rouge, qui est manifestement une offrande funéraire jetée dans un avène funéraire ou jetée des cadavres. Eh bien là, c'est un biface qui a aussi été particulièrement soigné. On peut dire que ces Homo erectus, à partir de 5000 ans, recherchent l'harmonie. C'est l'émergence du sens de l'harmonie, l'émergence du sens de l'esthétique. C'est le goût de la beauté qui est aussi une caractéristique de l'homme à partir de 600 000 ans. D'autres bifaces, c'est un biface en quartz, vous voyez, aussi, comme vous pouvez le voir, qui est parfaitement soigné, d'ailleurs, vous voyez, bien symétrique, vous voyez, bien arrondi, qui sont trouvés dans des niveaux. Celui-là, il est trouvé dans un niveau qui doit dater de à peu près 550 000 ans. Ces outils sont caractéristiques de la civilisation acholienne, comme on en trouve à Atapuerca, en particulier dans le site de Galeria, où on a aussi des bifaces qui se peuvent dater à peu près de la même époque. Alors, ils n'ont pas que des bifaces, ils ont des gros chopeurs. Ici, c'est un chopeur qui doit passer 7 kilos. Voyez. Le chopeur est un galet sur lequel une arête tranchante a été aménagée par des enlèvements sur une seule face. Et ça, c'est un outil très pratique, très facile à utiliser pour désarticuler des carcasses de grands herbivores. Une épaule de bison, une épaule de cheval, avec un gros chopper de 7 kilos, on peut facilement le désarticuler. Et on trouve beaucoup de galets aménagés, c'est un outil très ancien, mais qui se poursuit, qui est toujours utilisé dans les cultures acholiennes. Et puis, il y a aussi un petit outillage, comme vous voyez, un denticulé qui est en silex. Mais alors, dans la région de la Condoragua Totavel, on ne trouve pas de silex. Les hommes allaient dans la rivière proche, au pied de la grotte, dans la rivière Agli, ou à 5 km dans la rivière du Verdouble, ou à 5 km dans la Agli, et ils ramassaient des quartzites, ils ramassaient du quartz, ils ramassaient des cornéennes, des galets calcaires, mais pas de silex. Et parfois, ils voulaient d'autres roches qui se taillent mieux, qui font de meilleurs outils, et il fallait qu'ils aillent à 30 km au nord-est, dans la région qu'on appelle aujourd'hui Roquefort des Corbières, pour récupérer du silex en plaquettes et oligocène, où ils allaient parfois même à 30 km au sud-ouest, dans la région qu'on appelle aujourd'hui Vensa, pour chercher du jaspe. Ces hommes vivaient sur un territoire d'environ 60 km de diamètre autour de l'habitat. C'était leur territoire de chasse. Alors, l'intérêt exceptionnel, un des intérêts, puisqu'il y en a beaucoup d'intérêts à la gauche, je pense que l'intérêt exceptionnel, c'est reconstituer l'histoire du climat, l'histoire de l'environnement, l'histoire des paysages, l'histoire des biotopes pendant 600 000 ans, mais aussi c'est de reconstituer l'évolution humaine et donc connaître la morphologie des hommes préhistoriques. Alors nous avons eu la chance, dans la cône de la rivière Totavelle, de trouver pas mal d'ossements humains, infiniment moins que dans la Chima de l'Oesos, qui est un site quand même unique et exceptionnel. Mais nous avons actuellement découvert dans la cône de la rivière Totavelle 121 restes humains, et dont 3 ont été découverts au cours de l'été dernier. Alors 121 restes humains en 40 ans ou 45 ans, vous direz que ce n'est pas beaucoup, mais enfin, on est très content d'avoir trouvé 121 restes humains pour connaître un peu mieux ces premiers habitants de l'Europe. Alors là, c'était, nous sommes en 1969, et où il y a une mandibule humaine qui apparaît. Vous voyez ici le condyle, l'apophyse coronoïde, et la mandibule, vous voyez dedans, une première et une deuxième molaire, qui sont écrasées sous deux galets. Et voilà, c'est cette mandibule, lorsqu'on l'a sortie, vous voyez, elle est différente d'une mandibule d'un homme moderne. Elle a d'abord une branche montante très large et verticale, avec une échancrure ici qui est peu profonde, une mandibule sans menton, un trou mentonnier assez bas. C'est mon épouse Marianne Delomelet qui est ici présente, qui l'étudie avec des collaborateurs. Et c'est une mandibule d'une très vieille dame, parce que ses dents sont très usées. Il y a d'autres caractères qui peuvent indiquer qu'elle a été très âgée. Une dame, une vérinable à gueule, qui avait un peu franchi les générations. Ça, elle était morte à un âge canonique. Elle est morte à un âge exceptionnel, à l'âge de 40 ans. Prochaine. Puis, en 1970, on a eu la chance de trouver une autre mandibule. Alors, c'est une mandibule, cette fois, d'un jeune homme, d'un beau jeune homme, vous voyez, qui était sur un sol de cuisson. Alors, on a eu beaucoup de chance qu'elle était à la limite d'un front d'altération. Elle aurait été 10 cm plus loin, elle aurait disparu. Elle aurait été transformée en carbonate, vous voyez, et en phosphate même. Mais là, juste à la limite, ce qui lui a donné d'ailleurs une patine un peu noire parce qu'elle est couverte de manganèse. Prochaine. Et voici cette mandibule, vous voyez, une branche montante toujours assez verticale, large, une échancrure très faible, une mandibule sans menton et une denture robuste avec, vous voyez, des dents qui ne sont pas du tout usées. La troisième molaire, vous voyez, n'est pas eu des... La première molaire est un peu usée, mais c'est la dent qui sort à 6 ans. La deuxième molaire, la troisième molaire, qui sort vers 18 ans, n'est pas du tout usée. Elle est bien en place sur la carte dentaire, il avait donc un peu plus de 18 ans, mais guère plus, un jeune homme d'environ 18 ans. Mais elle est beaucoup plus robuste que la mandibule précédente, ce qui nous permet de dire qu'elle a appartenu à un homme de 18 ans, alors que la première plus gracile a appartenu à une femme de 40 ans. Le 22 juillet, on vient de trouver des dents humaines. Et vous voyez ici, on voit une première, une deuxième molaire supérieure gauche. Et là, on voit une deuxième, une troisième molaire supérieure droite. C'est donc, elles sont en position à peu près anatomique. On peut penser qu'il y a un crâne renversé sur la voûte. Alors, on va poursuivre la fouille, mais c'est très difficile parce que c'est le sédiment dans lequel est contenu ce crâne, c'est vraiment du béton. C'est au plus dur que le béton de cette salle. Et alors, c'est ma femme qui la dégage, prochaine. Et vous voyez, avec un outil de dentiste... Et on a mis beaucoup de temps, parce qu'elle a été trouvée le 22 juillet 1971, et on a pu enlever le crâne, extraire le crâne de son sol d'occupation, que le 13 août 1971, la veille de mon anniversaire d'ailleurs. C'était un cadeau de ma femme. Prochaine. Et voici, après avoir dégagé le sol, vous voyez ce crâne qui repose sur la voûte, le maxillaire supérieur en l'air, avec des ossements... un bison, de l'éléphant, une mandibule de lion ici, de nombreux ossements. Il repose sur la voûte, le maxillaire supérieur en l'air. Et on peut dire qu'il y a même un éclat de taille à l'intérieur de la cavité endocrânienne. Alors, si on regarde ce crâne, on peut tout de suite, et vous pouvez voir tout de suite, son âge. La troisième molaire est sortie, elle est sur la carte dentaire, mais très peu usée, pas du tout usée, on peut dire. La suture frontopariétale ici, qui commence à se souder avec les pariétaux à partir de 25 ans, ne s'est pas encore soudée. Il avait donc entre 18 et 25 ans, une vingtaine d'années. Mais il est dans une couche qui a été datée par l'uranium-thorium de 450 000 ans. Et le crâne lui-même a été daté par nos collaborateurs, Yuji Okoyama, qu'il a laissé dans un compteur gamma pendant 2 mois. Alors, il n'y a pas besoin de casser de l'os, on mesure les coûts émis par les rayonnements gamma, et ce qui correspond à l'uranium-234, ce qui correspond au thorium-230, et au bout de 2 mois et demi, il a pu avoir une idée de l'âge, et il a daté de 455 000 ans. Enfin, ça, c'est la moyenne, avec, bien sûr, des marges d'erreur prochaines. Alors, voici, vu de près, le crâne sur la voûte, vous voyez très bien, la troisième molaire qui indique qu'il a plus de 18 ans, et la suture frontoparietale qui indique qu'il a moins de 25 ans. Prochaine. Alors, voici la face de ce crâne de l'homme de Totavel. Prochaine. Et puis, quelques années après, ça s'est terminé, en 1978, quelques mètres plus loin, vous voyez ici une colonne vertébrale de cheval, de nombreux ossements, et sous la colonne vertébrale de cheval, un pariétal. Alors, on a extrait ce pariétal, on a mis aussi beaucoup de temps pour l'extraire, parce que quand on le découvre, il faut le dégager, puis on fait un moulage du sol d'occupation, on fait un dessin, des photos, et voici le pariétal vu de près, vous voyez, et on voit qu'il est enfoui un peu, là, sous un fragment de bois de cerf. Prochaine. Et voici le pariétal. Alors, vous voyez, sur ce pariétal, on voit très bien la crête temporale. Hein. Ici, c'est la suture lambdoïde, la suture sagittale et la crête temporale. Alors, le jour qu'on a extrait le pariétal de son sol d'occupation, on l'a descendu en laboratoire, sur notre laboratoire, et j'étais allé chercher à Marseille le crâne qu'on avait trouvé en 1971. Et au moment où on l'a mis en bas, prochaine, on a pu s'apercevoir que le pariétal raccordait parfaitement au frontal et que ça appartenait au même individu. Le pariétal avait été trouvé à 4 mètres de distance du frontal. Et c'est ainsi qu'on a pu reconstituer le crâne de l'homme de Todd. Alors, si vous regardez vos voisins, vos voisines, vous regardez, eh bien, il est bien un peu différent quand même. Vous voyez, il a un crâne bas. Contrairement à vos voisins ou vos voisines, il n'a pas de front. Il a un front fuyant. Puis il a une espèce de gros bourrelet au-dessus des orbites, avec une dépression interglabellaire. Une face qui se projette un peu en avant du crâne. Puis on peut mesurer sa capacité crânienne. Elle est de l'ordre de 1100 cm3, alors qu'un homme moderne, vous, monsieur, mesdames, vous avez une capacité crânienne d'environ 1400 cm3, donc une capacité crânienne plus faible que celle d'un homme moderne. Alors, ce crâne a beaucoup de ressemblances, d'abord avec les hominidés trouvés en Espagne, en particulier dans la Sierra, dans le Chima de les Ors. Oui, en particulier, beaucoup de représentants, en particulier avec les fondations, mais aussi il annonce par beaucoup de caractères les néandertaliens. On peut dire que c'est un Homo erectus européen, on les appelle des Homo heidelbergensis, du nom du site où a été trouvée la mâchoire de Mohr, près d'Heidelberg. Et c'est une forme qui annonce les Néandertaliens, mais il date 450 000 ans, il est beaucoup plus ancien. Alors, à la vue de profil, vous voyez, le crâne bas, le fond fuyant, le bourrelet de sud-orbite, une face prognate, vous voyez, qui s'avance en avant du crâne. Ici, il y a une espèce de bourrelet qu'on appelle le torus angularis et qui est caractéristique, qui disparaît chez les Néandertaliens et qui est présent chez les formes plus anciennes comme les Homo erectus. Prochaine. Et vu de face, vous voyez, alors on l'a mis avec la mandibule robuste parce que la mandibule robuste s'adapte mieux à ce crâne et c'est sans doute un crâne d'un individu masculin dont l'âge était compris entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire un individu d'environ une vingtaine d'années. Alors, on a trouvé aussi d'autres fossiles, parce que je vous ai dit qu'à Totavel, nous avons 121 restes humains. On a trouvé un crâne, on a trouvé aussi d'autres maxillaires, mais des fragments de maxillaires, ce n'est pas des crânes complets. On a trouvé des mandibules, on a trouvé beaucoup d'os du squelette. Et ici, vous voyez, c'est une découverte que nous avons faite en 1978. C'était un os iliaque. Un os du bassin qui a appartenu à une femme, parce que vous voyez, cette échancrure ici est très large, alors que chez les hommes, elle est très étroite. Mais quand. Prochaine. Alors, on peut voir ici le cas, avec une cavité cotylide, c'est-à-dire la cavité qui s'articule avec la tête du fémur, qui chez l'homme moderne est ronde, et qui là est ovalaire. Et ma femme qui l'a étudié pense que cette dame ne pouvait pas faire le grand écart. Prochaine. Alors, on a trouvé aussi de nombreux restes d'os du squelette. On a trouvé pas mal de fémurs, on a trouvé des péronées, on a trouvé des tibias, on a trouvé des humérus, des radius, des clavicules. Et ici, c'est un fragment de fémur. Et alors, tous ces ossements sont brisés, vous voyez. Et ce n'est pas des cassures qui ont été faites dans le sédiment sur le poids des terres. C'est des cassures lisses, un peu ondulantes, qui sont des cassures sur os frais. Et manifestement, ces ossements ont été cassés volontairement par l'homme pour en extraire la moelle. Et ce qui prouve que c'était des activités de cannibalisme. Vous voyez, on peut essayer de voir comment c'est ici un os iliaque et comment un fémur peut se raccorder, mais ce n'est pas, sûrement pas le même individu. Prochaine. On a trouvé aussi de nombreux, ici un autre fragment de fémur, et là vous voyez très bien sur ce fragment de fémur des stries de découpage. D'autre part, il y a des cassures sur os frais. Ce n'est pas une cassure irrégulière due au poids des terres, mais une cassure avec une fracture lisse, ondulante, qui est une cassure sur os frais. Alors l'histoire de ce fémur, eh bien, on a récupéré une cuisse, on peut dire. Hein. On a récupéré la viande. On voit des stries de découpage pour racler la viande. Et puis quand la viande a été récupérée, on a cassé l'os pour sucer la moelle. Et puis après, on l'a jeté sur le sol et un rongeur ou un petit carnivore est venu consommer l'épiphyse qui est riche en tissu conjonctif. C'est l'histoire de l'os. Mais très souvent, dans la cône de l'Arago à Totavel, les ossements humains que nous avons trouvés présentent des stries de découpage comme on peut le voir sur les ossements d'animaux. Prochaine. Ici, par exemple, c'est un tibia, vous voyez, un fragment de tibia. Prochaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur ce tibia, vous voyez, ici, on voit des stries de découpage aussi. Vous voyez. On a récupéré, en quelque sorte, le mollet. Vous voyez. On a récupéré le mollet pour le consommer. Prochaine. On trouve aussi, ici, un humérus. Vous voyez. Un humérus. Prochaine. Ici, un radius. Alors, on trouve beaucoup d'ossements comme ça à la cône de l'Arago, humains, toujours fracturés, brisés, jamais en connexion anatomique, qui présentent des cassures sur l'os frais, c'est-à-dire qui ont été cassées volontairement, des stries de découpage qui permettent de dire qu'on a récupéré la viande et des cassures sur l'os frais qui permettent de dire qu'on a récupéré la moelle. Prochaine. Et puis alors, nous avons continué à faire des découvertes. Ça, c'était une découverte que nous avons faite en 2001. En 2001, vous voyez ici apparaît dans un énorme charnier extraordinaire d'ossements une mandibule humaine, vous voyez. Et là, elle est renversée, vous voyez. Vous la voyez aussi ici, vous voyez. À côté d'os de bœuf musqué, de chevaux, de mouflons, vous voyez, dans un énorme amas d'ossements. Et manifestement, cette mandibule est un déchet culinaire contre les autres, comme les autres ossements d'animaux. Prochaine. Voilà, voici, après l'avoir sorti, après l'avoir dégagé, on l'a d'abord après l'avoir extrait, on l'a laissé sécher pendant 2 ans. Puis Marie-Antoinette l'a restitué, l'a reconstitué, l'a restauré. Et voici, alors toujours une branche montante large, verticale, et les dents. Prochaine. Voici, les dents sont bien conservées. Vous voyez, c'était une jeune fille. Et une jeune fille, vous voyez, la troisième molaire ici n'est pas encore à l'arcade dentaire. Vous voyez, au niveau de l'arcade dentaire. Elle avait un peu moins, sans doute, de 18 ans. Une charmante jeune fille de 17 ans. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière de la mandibule, ici, il y a les crêtes d'insertion de la langue, les apophyses génies, vous voyez, sur lesquelles s'inscrivent le museau de la langue. Et si on le regarde avec une binoculaire, on voit autour de ces apophyses génies des stries de découpage. C'est-à-dire qu'on a récupéré la langue. Et je vous rappelle que les hommes de Totavel, il y a 450 000 ans, n'avaient pas encore inventé le feu, et ils ont dégusté une langue de jeune fille crue. Voici vous voyez, la fameuse troisième molaire qui n'est pas encore sortie, qui est un peu plus bas de la première et de la deuxième molaire. Mais si vous voulez en savoir plus, vous interrogerez tout à l'heure Marie-Antoinette. Prochaine. Alors maintenant, je voudrais vous montrer des découvertes plus récentes, des découvertes que nous avons faites cet été, qui ne sont pas encore étudiées, qui est d'ailleurs la mandibule que nous avons découverte au mois de juillet dernier, au mois de juin dernier, est encore au séchage, vous voyez, elle n'est pas encore restaurée. Elle est là, vous la voyez. Elle est ici, vous voyez, une mandibule ici. D'ailleurs, je crois qu'Amélie s'en est servie pour faire l'affiche. Vous voyez, la mandibule, elle est là. C'est une mandibule aussi, assez gracile, prochaine. Voici la mandibule, au moment, elle est encore en place, oui. Avec deux dents, encore en place. Elle a toujours une branche montante assez large, assez verticale. Elle est assez gracile, elle a, ça correspond sans doute à une mandibule de femme. Et les dents sont assez usées, ça doit correspondre à une mandibule de femme âgée. Prochaine. La voilà encore de plus près, vous voyez. Prochaine. Voilà. Et puis alors, on a trouvé aussi, alors cette fois en mois d'août, une autre découverte humaine. Ici, vous voyez, ici, vous avez, on ne le voit pas trop bien, mais ici, vous avez un os iliaque, c'est-à-dire l'os du bassin. Hein. Prochaine. On avait déjà trouvé, ici, vous avez l'os iliaque de plus près. On avait déjà trouvé, je vous ai dit, un os iliaque en 1978. Et c'est le deuxième os iliaque, c'est-à-dire l'os du bassin, d'une dame aussi, qui a été découvert cette année, en 2008. Or, cet os iliaque, c'est intéressant, d'abord pour connaître la morphologie de ces hommes-là, pour connaître la dynamique de la marche, pour voir la forme de la cavité cotuléenne, pour essayer de comprendre le comportement de ces hommes. Prochaine. Le voici encore ici, en place sur le chantier. Prochaine. Et puis, vous voyez, moment où Marie-Antoinette l'enlève du sol, car c'est elle qui l'a dégagé, ça, et avec Florence Tosca, d'ailleurs, ensemble, et ça a duré assez longtemps, parce que c'est très fragile, et les os sont entrés. Hein. Et puis, prochaine, nous l'avons transportée à l'entrée du chantier. Vous voyez, on montre l'autre côté. Prochaine, et là, prochaine, Marie-Antoinette essaye de vous montrer où se situe un os iliaque. C'était un os iliaque gauche d'une dame assez âgée, d'environ 30 ans. Prochaine. Et voici, là on voit mieux où se situe un os iliaque, vous voyez. C'est dans le musée de Tautavel, où nous présentons les restes humains que nous avons trouvés sur un squelette. Aujourd'hui, il faut refaire le musée de Tautavel, car on en a trouvé deux. C'était une présentation faite en 1992, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'en 1992. Et nous allons, d'ici 2013, refaire complètement le musée. Prochaine. Et aussi quelques ossements trouvés dans la cône de l'Arago, quelques ossements humains trouvés dans la cône, le crâne de 1971, le parietal 1908, c'est le même individu, trois mandibules humaines, mais on en a d'autres, un os iliaque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces ossements humains de la cône de l'Arago sont non assez nombreux, bien sûr infiniment moins nombreux que les ossements de grands herbivores. Mais lorsqu'on trouve des ossements de mouflons, par exemple, ou des ossements de cerfs, ou des ossements de chevaux, on trouve tout. On trouve beaucoup plus de côtes et beaucoup plus de vertèbres que de mandibules ou de crânes. On trouve encore plus d'os du carpe ou du tarse que de vertèbres et de côtes. On trouve beaucoup d'os de phalanges, de phalangines, que de crânes et d'ambres, car on a beaucoup plus de, vous le savez bien, qu'on a beaucoup plus d'os du carpe, beaucoup plus de phalanges que de crânes et de mandibules. Malheureusement, on n'a qu'un crâne, hein, et on a plus de côtes. Et alors, pour le mouflon, on trouve toujours beaucoup plus d'ossements que de crânes de mouflon. Par contre, pour l'homme, c'est le contraire. Pour l'homme, on a trouvé juste un métatarse du pied. On a trouvé juste une phalangette de la main. Pas une seule vertèbre, pas une seule côte, mais les restes de plusieurs crânes, de plusieurs mandibules, et puis les os des parties du corps où il y a beaucoup de chair, le tibia parce qu'il y a le mollet, beaucoup de fémur parce que c'est là où il y a la cuisse, des oliaques là où il y a la fesse, des humérus là où il y a le bras, mais à l'exclusion de tout autre reste humain ou pratiquement de tout autre reste humain. Alors, cette sélection des os humains nous permet de penser qu'il s'agit d'un cannibalisme rituel. Tout à l'heure, Dal Carbonel, vous avez présenté les os humains de la Chuma du Lesos. Là, il y a de tout. Il y a des vertèbres, des côtes, des phalanges, etc. Il vous a dit que c'était des petits-enfants. C'était sans doute un cannibalisme alimentaire, de fin gourmet, parce qu'ils ne mangeaient que des enfants. Hein. Mais c'était un cannibalisme alimentaire, il y avait tout. Tandis qu'à Tautavel, il y a une sélection des os, et je pense que c'est plutôt un cannibalisme rituel. Mais enfin, de nouvelles découvertes nous permettront de mieux comprendre le mode de vie, le comportement, le degré de cognition de ces hommes préhistoriques. Mais je voudrais vous rappeler qu'un intérêt aussi exceptionnel de la cône d'Arago est de suivre l'évolution de la biodiversité. Nous avons des niveaux où existent, par exemple, il y a 450 000 ans, dans une steppe agraminée et à composer, balayée par une violente tramontane, du bœuf musqué, du renne, du renard polaire, du lemming à collier, qui sont des espèces qui vivent actuellement dans les milieux arctiques, dans d'autres niveaux comme le solji qui date de 500 000 ans. Nous avons une forêt, une chaîne mixte, avec des arbres, des animaux de forêt plus tempérés, du cerf et du daim. Et ainsi, nous pouvons suivre, au Halcón de Aragón, pendant 600 000 ans, des alternances de climat froid et des alternances de climat tempéré. Les périodes tempérées doivent durer, sont plus courtes que les périodes froides. Et il y a grosso modo un cycle d'une période froide suivie par une période tempérée tous les 100 000 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une période interglaciaire qui a débuté il y a environ 10 000 ans, 8 000 ans avant notre ère, ça fait 10 000 ans. On sait qu'on restera dans une période interglaciaire encore 10 000 ans. Je vous remercie.
À propos du cannibalisme sur enfants à Atapuerca, est-ce que vous avez pu déterminer si c'était des cadavres morts naturellement ou si c'était des enfants qui étaient massacrés pour être mangés?
Bon, en principe, vous connaissez, c'est difficile à distinguer. Hein? Mais en principe, on pense qu'ils sont chassés. Chassés. Que s'ils sont pris, ils sont morts, ils sont mangés. Mais c'est difficile, vous connaissez. Bon. Oui, exactement. C'est plus facile aussi d'attraper des enfants, mais en résumé. Notre avis, c'est que... C'est une hypothèse. Tant qu'on observe l'accumulation de fossiles, de la faune et d'industrie à Gran Dolina, on voit que normalement, de la base au sommet, il n'y a pas beaucoup d'occupation humaine, l'anthropisation, c'est très basse. Et tout d'un coup, par exemple, en 5 mètres carrés, on trouve 120 restes humains, on trouve 2000 restes de faune et 200 pièces lithiques. Donc, apparemment, c'est un palimpseste, mais à notre avis, c'est une augmentation démographique qui a passé très vite. Il y a un change climatique, la zone devient tempérée, et jusqu'à ce qu'on commence des changements, il y a une arrivée à une charge démographique très importante dans les fluviatiles qui arrivent dans la Sierra de Atapuerca. À notre avis, cette recherche démographique dans le système fait qu'on se développe un système culturel de cannibalisme. Pourquoi on dit ça? Ce n'est pas le niveau. Quand nous avons commencé à faire la découverte, ça fait 15 années, on pensait que c'est un événement, c'est un seul petit niveau. Mais après le travail, nous savons déjà qu'il y a 2-3 niveaux. Donc, ça, c'est des dizaines, des centaines d'années qu'on pratique le cannibalisme. C'est un cannibalisme culturel. Et à mon avis, c'est un cannibalisme dû à la pression démographique dans les mêmes zones. C'est pour ça qu'on dit ça.
S'il vous plaît, pour ce qui est de la mandibule de 1 200 000 ans, est-ce que vous avez des éléments pour comparer avec les restes de Dmanisi, de Géorgie? Est-ce que ce serait la même espèce ou pas ou...
Oui, bien sûr. C'est la mandibule, la partie antérieure. Nous avons la mandibule, on va comparer avec la mandibule de Manisi. Mais si que c'est vrai qu'on espère de trouver de nouveaux restes pour avoir, disons-nous, des caractères plus précis pour comprouver cette hypothèse.
D'autres questions?
À Totavel, si je comprends bien, il y a eu différentes périodes d'occupation de la grotte, mais il y a eu aussi de longues périodes d'inoccupation, finalement.
Oui, et l'homme habitait rarement la grotte, finalement. C'était des nomades, des chasseurs. Ils vivaient sur un territoire. Je vous ai dit qu'à Totavel, ces hommes devaient vivre sur un territoire de 30 km de rayon. Et c'était des chasseurs. 30 km de rayon, on peut le savoir, par l'origine des roches qu'ils ont utilisées pour fabriquer leurs outils. Alors, ce qu'on peut calculer, c'est la durée d'une période d'occupation, en tenant compte de l'âge d'éruption dentaire, de l'éruption dentaire des animaux jeunes. Nous savons que les animaux naissent vers le mois de mai et juin, dans la nature, et si c'est un animal abattu qui est mort à 6 mois, on peut penser qu'il a été abattu au mois de novembre. si c'est un animal dont le stade d'éruption dentaire permet de dire que c'est un animal de 12 mois, on peut dire qu'il a été abattu au mois de mai. Alors, pour le savoir, on ne prend que les mandibules des deux premières années. C'est-à-dire, c'est au cours des deux premières années qu'il y a encore des dents de lait, des dents définitives, qui permet d'estimer l'âge de l'animal abattu. Mais par contre, il est très difficile de savoir le temps qui s'est écoulé entre deux soldats d'occupation successifs. Alors, bien sûr, on peut faire des datations, mais les datations ne sont pas assez précises pour donner des bonnes données. À Teramata, à Nice, nous avons des dépôts d'environ 400 000 ans, des dépôts au-dessus des dépôts d'environ 380 000 ans. Les dépôts de 400 000 ans sont bien reconnaissables parce qu'ils correspondent à une période de transgression de la mer pendant une période chaude du quaternaire, qu'on appelle le stade isotopique 11-3. Et puis par-dessus, il y a des sédiments complètement différents qui sont de notre âge, qui sont apportés différemment, qui sont des sédiments apportés par le vent, des dunes apportées par le vent, qui correspondent au début d'une grande régression de la mer, une période froide. Et alors, des datations par le SR, par différentes méthodes, uranium-thorium, permettent d'évaluer la plage marine, les dépôts correspondant à la transgression de 400 000 ans, les dépôts supérieurs qui correspondent d'environ 380 000 ans, mais bon, parce qu'il y a 20 000 ans d'écart. Mais c'est même c'est 20 000 ans d'écart, c'est peut-être 30 000 ou c'est peut-être que 10 000. Vous voyez, c'est les méthodes de data. Mais on ne peut pas aller plus loin dans nos méthodes, actuellement, dans nos méthodes de datation. Mais la géologie, l'étude des faunes, l'étude des pollens, l'étude des grandes faunes, l'étude des microvertébrés. Les microvertébrés apportent beaucoup. Même les batraciens, les reptiles sont très liés à leur biotope, à leur environnement. Et grâce à toutes ces données, on peut avoir une très bonne idée du milieu. Et s'il y a deux milieux différents, on peut dire qu'il y a une certaine période de temps qui s'est écoulée entre les deux. Mais on ne peut jamais apprécier précisément la durée d'inoccupation de la grotte.
Oui, j'ai pas bien compris si ces hommes venaient du sud ou du nord. Je crois que le professeur Carbonel l'a dit, mais j'ai mal entendu.
D'accord. Notre hypothèse, après la découverte, c'est qu'il vient de l'Est.
Oui, on peut dire qu'ils ne sont jamais passés par le détroit de Gibraltar, tout au moins en nombre. Bon, à une époque plus récente, peut-être à l'époque de l'Acheulien, il y a quelques bonhommes qui ont dû passer sur des radeaux de fortune. Mais le détroit de Gibraltar a toujours été occupé par un bras de mer depuis le Messinien. Alors, le Messinien, la Méditerranée s'est asséchée. Bon, c'était autre chose. Mais au Quaternaire, jamais on a pu traverser le détroit de Gibraltar à pied sec. Donc, et ils n'avaient pas de moyens de navigation, surtout qu'il y a des courants très violents au détroit de Gibraltar. Alors, il y a quelques bonhommes qui ont dû passer parce qu'il y a quand même certains types d'outils comme des hachots, des bifaces qui évoquent énormément d'Afrique du Nord. Et on peut penser que des milliers de personnes se sont noyées, mais quelques-uns ont pu passer et ont apporté un niveau culturel venant d'Afrique du Nord. Mais la faune n'est jamais passée. Seuls les hommes, quelques hommes ont pu passer. Mais la population de l'Europe est arrivée et née en Afrique dans les théories actuelles, dans les données actuelles, dans les données de la recherche actuelle. En Afrique, ils étaient assez présents dans le rift africain. Les plus anciens outils taillés, aménagés par l'homme, datent de 2 550 000 ans. D'ailleurs, nous avons étudié ensemble les industries de Gona, qui sont les plus vieux outils taillés actuellement connus dans le monde, et qui datent de 2 500 000 ans. 2 550 000 ans, parce que ces couches ont été trouvées entre deux dépôts de cendres volcaniques, l'une de 2 500 000 ans au-dessus et l'autre de 2 600 000 ans au-dessous. Et ces hommes ont quitté très tôt le berceau africain de l'humanité, et on les retrouve il y a à peine un peu plus de 2 millions d'années en Palestine, à Hiron, dans la région de Haïfa, pas très loin d'Haïfa. Et puis on les retrouve, on l'a dit tout à l'heure, aux portes de l'Europe, sur les pentes septentrionales du Petit Caucase, à Manissi, qui ont été datées précisément, très précisément, même par le potassium argon, de 1 810 000 ans. Et nous savons que l'homme est présent il y a 1 810 000 ans aux portes de l'Asie, comme aux portes de l'Europe. Et c'est en doute que là qu'ils arrivent un peu plus tard sur les vaches méditerranéennes. Et tout à l'heure, dans le carbonel, où ça parlait de la chima qui date de chima de l'éléphante, qui date de 1,2 million, 1,3 million. On connaît un autre site dans le sud de l'Espagne, près de Grenade, Fuentanueva 3 et Baroncoleón, deux sites qui datent de 1,2 million à peu près. Et puis récemment, une collègue italienne, Marta Azzarello, a mis en évidence sur la côte adriatique un site qui date de 1,5 million ans, qui s'appelle Pirono. Et on peut dire que l'homme est arrivé sur les rivages méniurs d'Europe, venant de l'Est, comme vient de le dire Dal Carbonel, vers 1,5 million d'années.
Sur le site de Totavel, vous avez parlé de moins 700 000 ans jusqu'à 100 000 ans, et vous n'avez pas évoqué de foyer sur Totavel. Est-ce qu'il y avait des traces?
Alors, à Totavel, dans les couches, dont là j'ai compris entre 700 000 et 400 000 ans, nous n'avons jamais découvert d'ossements brûlés, jamais découvert de charbon de bois, pas de cendres, mais enfin les cendres, ce n'est pas un argument parce que ça se décarbonate facilement et ça peut disparaître. Pas de pierre éclatée par le feu. Et manifestement, entre 700 000 et 400 000 ans, l'homme n'avait pas domestiqué le feu. Dans les couches qui sont un peu plus hautes que 400 000 ans, on trouve occasionnellement des ossements brûlés, mais très peu. Et l'homme devait connaître le feu, mais il n'était pas peut-être très utilisé. Et dans les couches les plus hautes, à partir de 200 000 ans, les ossements brûlés sont très nombreux et le feu est omniprésent à partir de 200 000 ans dans l'univers humain.
À Atapuerca, dans les niveaux à 1 300 000, il n'y a pas de feu, il n'y a aucun preuve. Dans les niveaux à 800 000 années, il n'y a pas aucun preuve. Mais si qu'à partir de 350 000 400 000 années, il y a quelques galets brûlés, pas des ossements brûlés. Donc apparemment, l'arrivée du feu, ou la connaissance du feu dans ces zones-là, ce n'est pas antérieur à 450 000 500 000 années.
C'était donc la retransmission du colloque qui se tenait le 2 octobre 2008 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Un colloque qui visait à faire part des dernières découvertes sur l'homme grâce aux ossements trouvés dans la région de Totavel en France et à Atapuerca en Espagne.